Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Bruno Fison, le grand rabbin de Metz et de la Moselle. Il est vétérinaire, ce qui prend aujourd'hui tout son sens quand il va nous expliquer ce pourquoi il est venu aujourd'hui dans nos studios. Monsieur le grand rabbin, bonjour.
Bonjour, je vous remercie de me recevoir dans ces studios. Effectivement, je viens en tant que rabbin, mais aussi en tant que vétérinaire. Et car j'ai commis le délit, si on peut dire, d'écrire un livre sur l'animal dans le judaïsme. Quel livre s'appelle « Et Dieu créa l'animal, l'animal dans le judaïsme ».
Vous dites que notre rôle en tant qu'humain est de veiller sur les autres espèces, comme c'est écrit dans la Torah. Est-ce qu'on en est loin encore aujourd'hui ?
Alors probablement qu'il y a, encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire au niveau des humains, peut-être beaucoup de travail à faire au niveau de la communauté juive également. Je suis sur beaucoup de fronts pour défendre l'abattage rituel, la shrita, que ce soit en France ou en Europe, en tant que conseiller du Grand Rabbin de France et également en tant que membre du rabbinat européen. C'est une tâche qui est ardue, qui est difficile, car si on essaye de démontrer que l'abattage rituel en lui-même n'est pas une cause de souffrance animale supérieure à un abattage conventionnel, on est souvent mis sur la sellette et on nous accuse de ne pas prendre en considération les animaux. Que le judaïsme fait fi de l'existence, enfin en tout cas du bien-être animal et n'agit pas en faveur de l'abolition de la souffrance animale.
Est-ce que vous pouvez nous parler concrètement de l'abattage rituel et est-ce que l'animal souffre effectivement plus ?
Alors justement, c'est là l'objet un petit peu du débat et de la discussion au niveau national et européen. En préambule, dire simplement que les gens qui prônent d'être vegan et de ne pas manger des animaux sont tout à fait respectables. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit pour les détracteurs de l'abattage rituel de nous interdire à nous de consommer de la viande alors qu'eux, ils peuvent se permettre de consommer de la viande selon un abattage dit conventionnel. Alors ce qui est intéressant, c'est de comparer les deux abattages. Pour nous, il s'agit, alors je m'excuse des détails un peu difficiles pour les auditeurs.
Il faut les entendre hein, quand on consomme de la viande.
Absolument. Il s'agit de trancher la gorge donc, de l'animal et de provoquer par là une hémorragie massive, laquelle hémorragie massive entraînera une perte de connaissance, de conscience extrêmement rapide. Tout dépend bien sûr de la dextérité du shochet, c'est-à-dire de la personne qui va faire la shrita. Alors, d'un autre côté, il y a l'abattage dit conventionnel. Et cet abattage est précédé par ce qu'on appelle un étourdissement, mais qui en vérité n'est pas un étourdissement. Il s'agit de l'introduction d'une tige perforante extrêmement traumatisante dans le crâne de l'animal. Et l'animal est censé perdre conscience. Et ensuite seulement, l'animal sera égorgé, puisque tous les animaux doivent être vidés dans leur sang pour pouvoir être consommés. Donc voilà les deux abattages en question. Après, il y a une querelle de scientifiques. On a des travaux scientifiques qui attestent que l'abattage rituel ne fait pas plus souffrir que l'abattage conventionnel, parfois moins, ça a été prouvé sur les volailles, et puis d'autres qui disent que si, c'est plus cause de souffrance que l'abattage conventionnel. Donc c'est un combat de spécialistes, mes connaissances me permettent, avec l'aide d'autres scientifiques, de défendre l'abattage rituel, qui est un droit de la communauté juive partout en Europe, un droit de pouvoir consommer donc de la viande cachère. Ceci dit, c'est pas parce qu'on pratique cet abattage rituel que l'on défend en montrant qu'effectivement il n'est pas plus cause de souffrance qu'un abattage conventionnel, parfois il est supérieur, mais c'est pas pour cela que nous devons pour autant mépriser les animaux. Et là c'est un peu l'objet de mon ouvrage, il s'agit donc de démontrer que la Bible considère l'animal à sa juste place comme une créature divine. Dieu créa les animaux, d'ailleurs avant de créer l'homme, et par conséquent, puisque sont ces créatures divines, puisqu'elles s'inscrivent dans le projet divin, il est donc important pour nous de les respecter. De les respecter dans ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres vivants doués d'une sensibilité. Et là, c'est très intéressant parce que déjà, des rabbins, que je qualifierais de rabbins scientifiques, évidemment le plus connu d'entre eux étant Maïmonide, parlaient d'une sorte d'instinct maternel, de compassion de la vache pour son veau, et qui explique d'ailleurs l'interdiction d'abattre un animal et son rejeton le même jour. Donc, il expliquait cela par cette sorte de sensibilité, comme si l'animal était doué. Bien sûr, il faut se garder tout anthropomorphisme. Le niveau de conscience de l'animal et le niveau d'intelligence de l'animal n'est pas celui de l'homme, mais il existe. Donc nous avons un respect à avoir vis-à-vis de l'animal.
Et des conditions de vie également ?
Alors, Absolument, les conditions de vie, les conditions d'élevage, les conditions de transport, nous devrions être plus militants, si je puis m'exprimer ainsi, par rapport à ces conditions-là. On ne regarde pas assez cela. Hein, le consommateur cachère se contente d'avoir un bon tampon cachère, un bon rabbinat, comme celui de Strasbourg, par exemple, ou d'autres, mais on ne regarde pas ce qu'il y a en amont. Et là, peut-être, on fait une erreur, j'allais dire, stratégique, pas pour montrer que quelque part, on est plutôt militant, quelque part, de la cause animale. On devrait montrer qu'on est militant de la cause animale. Et puis, il y a une deuxième dimension qui est intéressante, c'est l'animal en soi est doué de sensibilité. Et puis, il y a une dimension qui est liée à ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que si Dieu crée un monde dans lequel il a créé un monde dans lequel il y a toutes sortes d'animaux, chaque animal a sa place. L'Éternel ne crée pas des choses en vain, ne crée pas des choses pour rien. Et lorsque l'homme fait disparaître une espèce animale, voire aussi une espèce végétale, c'est vrai aussi pour le végétal, quelque part il touche, il amoindrit la création que Dieu a voulu sur terre. Et ce n'est pas dans le projet divin. Lorsque Dieu a créé l'être humain, le premier être humain, Adam, le texte de la Genèse nous explique qu'il l'a placé dans le jardin d'Éden pour le travailler, certes, donc créer la société, la civilisation, mais aussi pour le garder. Nous avons donc un devoir de garder le monde, l'univers, la biodiversité, la nature et de la transmettre à nos enfants.
Ça s'appelle la chaîne alimentaire. Ou est-ce que ça va même au-delà ?
Non, alors la chaîne alimentaire, c'est de considérer qu'effectivement, l'homme est le super prédateur. Ce qu'on appelle la chaîne alimentaire, c'est finalement les végétaux, les animaux, les carnivores, et puis le super prédateur étant l'homme. Ça, c'est quelque chose de naturel. C'est pourquoi le judaïsme d'emblée permet la consommation de viande. Mais là, vous soulevez un problème extrêmement intéressant. Quelle est la place donc du régime végétarien, du vegan dans le judaïsme ? C'est une question qui est tout à fait à la mode aujourd'hui, et pour cause. Alors, si on prend le projet divin, le projet de la création au départ, dans la Genèse, il faut savoir que Adam et Ève, les premiers êtres humains, étaient végétariens. Ils ne pouvaient pas consommer de viande. Ils ne consommaient pas de viande. Ils ne consommaient que des végétaux. Et c'est seulement après l'épisode du déluge et de Noé que l'autorisation de consommer de la viande a été accordée à l'humanité. On ne peut pas parler de peuple juif à l'époque, on parle donc de Noé. Pourquoi ? Alors, les rabbins discutent pourquoi on a autorisé finalement les hommes à consommer de la viande. Il y a beaucoup d'arguments qui ont été donnés. Alors, je reviens à Maïmonide, c'est le rabbin, le médecin, le pragmatique, le philosophe. Mais il nous explique tout simplement que les animaux ont dû leur salut à Noé et aux humains. Par contre, cela confère, si on peut dire, une sorte de pouvoir de Noé et de sa famille sur les animaux, leur permettant de consommer de la viande. Mais il y a un autre commentateur, Ibn Ezra, donc médiéval, espagnol, qui nous explique, donne une explication tout à fait extraordinaire. Il nous explique que avant le déluge, il n'y avait pas de hiérarchie entre l'homme et l'animal. L'homme était végétarien et se plaçant presque au niveau des animaux. Et c'est pourquoi ce manque de hiérarchie entre l'homme et l'animal a amené l'homme à avoir un comportement qu'on peut qualifier de bestial, une sorte de perversion des mœurs. Permettre à l'homme de consommer de la viande nous permet de rétablir une hiérarchie entre l'homme et l'animal, considérant toujours l'homme au-dessus de l'animal. Et c'est la raison pour laquelle ce régime carné a été donc permis. Après, qu'en sera-t-il dans les temps futurs ? Il y a un rabbin que j'aime beaucoup, qui est le Rav Kook, le fondateur du sionisme religieux, du mouvement sioniste religieux, le premier grand rabbin, alors pas d'Israël, ce qui serait n'existait pas, du Yishuv, de la population juive en Israël, qui lui, carrément, était pour le régime végétarien, mais avec la venue du Messie, parce qu'il considérait qu'il est trop tôt aujourd'hui de se préoccuper d'avoir une compassion trop importante pour les animaux, alors que les hommes eux-mêmes sont dans la souffrance. Donc lui-même était végétarien, sauf le Shabbat, il s'obligeait à manger un peu de volaille pour montrer qu'il n'était pas totalement végétarien, mais il pensait qu'effectivement l'idéal de l'homme est de revenir au temps antédiluvien, si on peut dire, et de retrouver donc ce régime végétarien. Tout le monde n'est pas d'accord avec lui, parce que quid du service des sacrifices au temple de Jérusalem, s'ils reviendront, voilà comment on va faire. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent, mais au moins la question du végan se pose pour nous. Et à la limite, si un juif religieux veut être végan, il n'y a aucun problème, il peut choisir de l'être. Moi, pour ma part, c'est pas mon choix, mais bon, ça c'est un choix personnel. Mais le fait de consommer de la viande, d'être carnivore, ne doit pas nous exonérer de nos devoirs envers ces créatures inférieures que sont les animaux.
Bruno Fison, vous êtes vétérinaire, je le disais en introduction de cette interview. Vous êtes également le grand rabbin de Metz et de Moselle. Est-ce qu'il y a un paradoxe parfois entre les deux fonctions ?
J'ose croire que non, je pense que c'est tout à fait harmonieux. En fait, vous posez une question plus vaste, vétérinaire rabbin, j'allais dire même scientifique rabbin, se pose des questions notamment dans la contradiction entre les données scientifiques et les données rabbiniques et les textes que nous avons, et notamment, et je l'explique dans le premier chapitre de mon livre, notamment sur l'origine des espèces, l'origine de l'homme. Vous savez que au 19e siècle est née la théorie de l'évolution, Charles Darwin, et ça a été un choc véritable avec les religions, notamment avec les religions d'obédience chrétienne, et encore aujourd'hui, aux États-Unis, on sait que le créationnisme s'oppose à l'évolutionnisme. L'évolutionnisme sont les théories scientifiques, même si aujourd'hui, on ne suit plus Darwin à la lettre. Il y a eu beaucoup de modifications. On sait très bien que l'homme ne descend pas du singe, qu'il y a une parenté génétique, mais ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, on a gardé quand même les grands traits de la théorie de Darwin. Du côté des créationnistes, on refuse tout à fait cela. Et vous savez que beaucoup de sectes évangéliques, j'aime pas le mot secte, un peu péjoratif, on va dire de mouvement évangélique, rejette le darwinisme, la théorie de l'évolution, et sont pour un créationnisme, c'est-à-dire une lecture littérale de la Bible. Dieu a créé le monde en 7 jours, les astres, les plantes, les animaux, et l'homme le vendredi. Chez nous, dans le monde rabbinique, on a beaucoup de rabbins qui sont créationnistes, et qui sont tout à fait aussi pour une lecture littérale du texte de la Torah. Mais d'autres, notamment ceux qui ont été les contemporains de Charles Darwin, notamment le rabbin Israël Lipschitz, qui sont des rabbins strictement orthodoxes, hein, ils ne sont pas d'un mouvement libéral ou quelques mouvements qui sont nés également du même siècle, donc strictement orthodoxes, qui a écrit le livre Tiferet Israël, le Malbim également, qui sont des grands de la génération du 19e siècle, ont accueilli le darwinisme, bien sûr avec beaucoup de réserves, certes, mais en considérant que on pouvait imaginer que certains points importants de cette théorie sont acceptables. Pourquoi ne pas imaginer, par exemple, qu'il y aurait une évolution des espèces les unes provenant des autres, mais selon une main dirigée par l'Éternel, et que effectivement tout ce que Darwin a pu dire ou tout ce qui a été dit à l'époque n'est pas forcément mensonge. Alors évidemment, la création de l'homme, c'est autre chose, parce que le judaïsme se méfie, et on l'a expliqué tout à l'heure, de cette volonté de mettre l'homme au niveau de l'animal. Il faut comprendre aussi que, alors ça nous amènerait loin, mais c'est intéressant, il faut comprendre aussi que le darwinisme, et surtout une nouvelle forme de néo-darwinisme, peut amener à des idéologies extrêmement dangereuses. Le nazisme lui-même s'est servi très largement, Darwin n'était pas antisémite, pas du tout, mais il s'est servi de ces théories pour considérer que les plus faibles doivent disparaître et seuls les plus forts, la race supérieure, on connaît toutes leurs théories, doit survivre en s'inspirant de la nature. Donc il faut faire extrêmement attention tout de même à cela. Dès qu'on perd de vue effectivement l'idée qu'il y a un créateur, alors c'est pas, je veux dire, quand je dis qu'il y a un créateur, c'est pas juste une bondeuserie. Je crois en Dieu, ok, moi je suis un homme croyant, je crois en Dieu, il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, les juifs, les chrétiens, les musulmans, ok. Mais il y a aussi une sorte de garde-fou vis-à-vis de l'humanité. C'est-à-dire dire que l'homme a été créé par l'Éternel et qu'il a été créé unique au départ et qu'après il y a toutes les ethnies, si on peut dire, qui découlent d'un homme unique, et que Dieu a pris soin de créer l'homme à part les animaux, après les animaux, c'est conférer quand même à l'homme un statut important, un statut particulier dans la création, et donc par conséquent de provoquer le respect absolu des uns et des autres vis-à-vis de nos contemporains. Et donc de mettre à mal toutes ces théories qui hiérarchisent l'homme comme on va hiérarchiser les animaux. Vous savez, les nazis ont fait des sélections d'animaux pour créer le bœuf idéal, le chien idéal, donc on a toutes ces théories folles, et ils ont aussi, malheureusement, sélectionné dans l'humanité ceux qui avaient le mérite de vivre ou avaient le droit de vivre et ceux qui n'avaient pas. Donc attention à toutes ces théories, Mais on ne peut pas non plus rejeter la science d'un revers de la main. Nous, juifs, nous avons toujours été ouverts à la science. Les grands rabbins, que ce soit Maïmonide ou le Gaon de Vilna, ont toujours accueilli la science avec beaucoup de respect. Et même si parfois cela remettait en question certaines thèses rabbiniques, eh bien, à nous de réfléchir et de voir comment les choses sont conciliables.
Et vous êtes dans ce dilemme parfois, justement, en tant qu'homme scientifique. Vous avez été vétérinaire, je le disais en introduction, avant de faire votre école rabbinique.
Tout à fait. Les contradictions existent, mais comme elles existent d'ailleurs dans le Talmud lui-même, hein, on peut avoir des disputes entre des rabbins, mais ce n'est pas parce que problématique scientifique nous gêne, qu'il faut forcément soit rejeter la problématique scientifique en disant voilà, c'est une invention, ça n'existe pas, soit j'allais dire balayer aussi les textes bibliques et la Torah en disant c'est des choses anciennes qui ne vont pas avec leur temps. Le défi, c'est bien de concilier les choses, c'est bien de comprendre qu'on a d'un côté la Torah qui, elle, et n'est pas là tellement pour nous expliquer le comment des choses, mais plutôt le pourquoi nous sommes là, quelle est notre vie, notre mission sur Terre, ce qu'on doit y faire, comment nous comporter, c'est ça le but de la Torah. Et la science, elle, qui doit nous expliquer le comment ça fonctionne, comment la science fonctionne, les planètes fonctionnent, on respire, on vit, etc., on s'alimente. Les deux questions, ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires. Le problème, c'est lorsque la science va sur le terrain de la philosophie et de la religion pour nous dicter comment on doit vivre. Et là, c'est extrêmement dangereux.
Alors, vous abordez également dans votre livre les antispécistes. Pouvez-vous nous expliquer ?
Oui, tout à fait. C'est un mouvement créé par un Australien appelé Peter Singer il y a plus d'une vingtaine d'années. Alors, le mot antispéciste est créé sur la base du mot antiraciste. C'est-à-dire que les personnes qui consomment de la viande ou qui mettent des manteaux avec de la laine ou boivent du lait, donc qui exploitent les animaux, sont assimilées à des racistes. Puisque l'animal est mis dans cette théorie au même niveau que l'homme. Donc, si vous exploitez les animaux et vous les consommez, bien sûr, vous êtes des spécistes, comme il y a des racistes. Et donc, ces gens-là s'intitulent antispécistes. Ils luttent contre les spécistes comme des antiracistes luttent contre les racistes. Et ce qui est terrible, c'est que dans leur théorie, ils font appel à deux événements extrêmement douloureux de l'humanité, notamment l'esclavage des populations africaines, des Noirs, en disant que voilà, l'exploitation des animaux est comparable à cela, parce que c'est absolument insupportable comme comparaison, et bien sûr la Shoah, et ça c'est terrible, comparant les abattoirs, il y a des écrits au camp d'extermination. Donc là, on a vraiment une dérive terrible qui peut même amener à certains mouvements antispécistes à de la violence. Donc là, attention, soyons vigilants.
Vous étiez à Strasbourg ce mercredi pour présenter votre ouvrage « Et Dieu créa l'animal dans le judaïsme ». Alors, quelles sont les questions du public ? Elles tendent plutôt vers l'étude talmudique ou est-ce que ce sont des questions pratiques qui concernent l'abattage rituel ou encore la cacheroute ?
Alors, évidemment, je ne vous cache pas que le public en général est très intéressé par les questions liées à l'abattage rituel parce que c'est l'actualité. Alors, elles ont été mises un peu en sommeil par la crise du Covid, mais je suis persuadé qu'elles vont revenir bientôt. Pourquoi ? Parce que la problématique de l'abattage rituel met quelque part en question notre présence même en France et en Europe. Parce que lorsque vous interdisez l'abattage rituel dans un pays comme c'est le cas récemment en Belgique, quelque part, vous touchez la communauté juive, même si les législateurs s'en défendent et disent que c'est pour le bien-être animal, mais quelque part, ils touchent la communauté juive dans un de ses droits fondamentaux. Et très souvent, après l'abattage rituel, c'est la circoncision qui est mise en question. Et nous l'avons déjà vu, ici à Strasbourg, au niveau du Conseil de l'Europe, alors pas au niveau du Parlement européen, hein, il faut bien la distinction du Conseil de l'Europe, donc c'est pas, le Conseil d'Europe n'a pas le poids, le pouvoir du Parlement européen, mais quand même, ça s'est bien terminé, mais on a eu quand même des députés qui ont voulu légiférer sur la circoncision et l'interdire sans le consentement de l'enfant avant l'âge de 18 ans. Donc vous voyez, ce sont des droits fondamentaux qui remettent en question notre présence même en Europe. Alors l'abattage rituel, s'il est interdit, on pourra toujours importer de la viande, comme le font nos frères en Suisse, mais la circoncision, voilà, on n'aura pas beaucoup de choix. Donc, c'est vraiment une défense pour nos droits nos droits d'être juifs, de pratiquer le judaïsme de façon libre. C'est une question, pour moi, de liberté et de démocratie. Donc les questions souvent portent là-dessus. Elles portent là-dessus aussi parce qu'il y a une sorte de, comment dirais-je, dans la communauté juive, on se fait attribuer l'étiquette de barbare. Alors, je n'exagère pas, il y a eu un premier ministre qui, depuis, a été mis en examen, etc., puis qui a disparu de la scène politique, mais qui, à l'époque, il y a quelques années, avait parlé, en propos de l'abattage rituel, de rites ancestral et désuet. Donc, il y a une remise en question, vraiment, de notre pratique du judaïsme. Donc ça, c'est vraiment... Les questions portent là-dessus. Beaucoup de questions portent sur la cacheroute, c'est très pratique. Alors, c'est quoi cachère, pas cachère, super cachère, glad cachère? Donc, ça, ce sont des questions qui ne manquent pas de revenir de façon importante. Et puis aussi, parce que c'est un préoccupation du public, la place de l'animal dans la société, c'est quelque chose qui ne touche pas seulement le monde extérieur à la communauté juive, mais qui touche aussi la communauté juive. De plus en plus de jeunes, notamment, sont sensibles, et ils ont raison, au bien-être animal, à la position de l'animal, au respect de l'animal, à la vision du judaïsme que le judaïsme de l'animal. Parce qu'un point qui est important, on a dit qu'il fallait respecter les animaux, qu'il ne fallait pas les faire souffrir, que c'est des créatures divines, mais même l'animal participe même au projet de la création. Il y a un texte extrait des psaumes que l'on prononce le samedi après-midi au cours de l'office, donc à la synagogue. Adam ou Behema Toshia Hashem, l'animal et l'homme, tu sauves ensemble l'éternel. Comme s'il y avait une communauté de destin, comme dans l'Arche de Noé. Voilà, on est embarqué dans le même bateau. Et toute destruction de telle ou telle espèce animale, bah quelque part, c'est un amoindrissement du projet divin. Et quelque part, cela, comme un boomerang, nous reviendra dans la figure et on va en souffrir. J'en suis persuadé. Donc, alors, c'est pas une caricature, mais se battre pour que les ours blancs puissent continuer à se promener sur la banquise, c'est aussi se battre pour l'humanité.
Ah oui, et pour notre survie.
Et notre survie, tout à fait.
Bruno Fison, grand rabbin de Metz, vétérinaire également, vous êtes venu aujourd'hui nous présenter en studio votre ouvrage « Et Dieu créa l'animal, l'animal dans le judaïsme ». C'est aux éditions Transmettre.
Voilà, merci beaucoup.
Bruno Fison, grand rabbin de Metz et de la Vauzelle, vétérinaire également. Vous êtes venu aujourd'hui nous présenter en studio votre ouvrage « Et Dieu créa l'animal, l'animal dans le judaïsme ». C'est aux éditions Transmettre. Bruno Fison, un grand rabbin de Metz et de la Moselle et vétérinaire, vous êtes venu aujourd'hui dans nos studios nous présenter votre ouvrage. Vous venez de sortir ce livre « Et Dieu créa l'animal dans le judaïsme ». C'est aux éditions Transmettre. Merci à vous.